Chapitre 52. Anna sonda le bois de grand bouleau qui poussait à l'ombre d'une falaise. L'endroit tenait son nom de ses murailles de roches rouges. Quant au bois, les arbres à l'écorce blanche, constellés de taches sombres, y étaient tellement serrés qu'on avait du mal à voir quoi que ce soit et à s'orienter. Et s'égarer ici risquait fort d'être la dernière erreur qu'un voyageur pouvait commettre. Depuis sa jeunesse, Anna n'était plus venue voir les guérisseurs des falaises rouges. Elle s'était promis de ne jamais revenir et l'avait également juré aux guérisseurs. En près de 1000 ans, elle espérait qu'ils avaient oublié. Très peu de gens connaissaient ce lieu et moins encore s'y aventuraient. Pour ça, il fallait avoir une sacrée bonne raison. Le mot « guérisseur » était une étrange et imprécise façon de désigner des personnages si dangereux. Pourtant, il exprimait une part de vérité. Les guérisseurs des falaises rouges ne se souciaient pas de soigner les êtres humains, mais ils étaient très attentifs à tout ce qui importait à leurs yeux, des choses très bizarres pour dire la vérité. Après tout ce temps, Anna doutait que ces gens existent encore. Paradoxalement, car elle avait désespérément besoin de l'aide qu'ils pouvaient lui apporter, elle espérait que les guérisseurs ne chassaient plus dans le bois des falaises rouges.
« Une visiteuse !»
dit une voix sifflante et moqueuse. Le son venait de derrière les arbres, sans doute d'une des grottes naturelles dont les falaises étaient truffées. Anna se tint parfaitement tranquille, même si de la sueur ruisselait sur son front. Une silhouette bougeait au milieu des arbres, mais elle ne parvenait pas à la distinguer clairement. Aucune importance. Elle avait entendu la voix d'un des guérisseurs, et personne au monde n'en avait de semblable. La dame abbesse tenta de parler d'un ton assuré.
« Oui, je suis une visiteuse, et j'ai plaisir à savoir que vous allez bien. »
« Il reste peu d'entre nous, »
répondit la voix sifflante.
« Les carillons ont fait des ravages. »
Exactement ce qu'Anna avait redouté et appelé de tous ses voeux.
« Je suis navrée, »
mentit-elle.
« Nous avons essayé, » dit la voix désormais plus proche, « mais nous n'avons pas pu guérir les carillons pour qu'ils s'en aillent. »
Anna se demanda si ces créatures étaient encore capables de guérir et combien de temps il leur restait à vivre.
« La visiteuse vient pour être soignée !»
demanda une autre voix sifflante, beaucoup plus lointaine.
« Plutôt pour être examinée !»
dit Anna, informant ses interlocuteurs qu'elle savait de quoi elle parlait. Il n'était pas question qu'elle les laisse mener le jeu à leur guise.
« Il faut payer, tu sais !»
« Oui. »
Anna avait tout essayé sans obtenir de résultat. Les guérisseurs étaient son dernier recours. De toute façon, elle n'était pas très sûre que ne pas sortir du bois des falaises rouges l'inquiète vraiment. Puisqu'elle n'avait jamais fait la moindre bonne action de sa vie, mourir maintenant ou un peu plus tard ne changeait rien.
« Alors ? »
demanda-t-elle.
« Vous acceptez ?»
Une silhouette apparut brièvement entre les arbres, comme pour l'inviter à venir la rejoindre. En se massant les doigts qui lui faisaient toujours mal, bien qu'ils fussent guéris depuis longtemps, la dame abbesse s'enfonça dans le bois, déboucha assez vite dans une minuscule clairière et aperçut dans la roche rouge la gueule béante d'une grotte. Des yeux la regardaient, tapis dans l'obscurité.
« Entre !»
ordonna une voix sifflante. Avec un soupir fataliste, Anna s'apprêta à pénétrer de nouveau dans un lieu qu'elle n'avait jamais oublié, si fort qu'elle ait essayé. Agacée que le vent les fasse voler devant ses yeux, Callan saisit ses cheveux d'une main et les plaqua contre son épaule. Alors qu'elle entrait dans le camp en ébullition, la foudre s'abattait sur les montagnes à l'est de la vallée. Un orage s'annonçait et des bourrasques malmenaient les arbres dont les feuilles, vues de loin, semblaient trembler d'indignation et de colère. En général, le camp était relativement calme afin de ne pas fournir d'indications à l'ennemi. Aujourd'hui, un épouvantable vacarme en montait. Le bruit seul aurait suffi à énerver l'inquisitrice, mais il n'y avait hélas pas que cela. Alors qu'elle fendait la foule de soldats, qu'un profane aurait pu croire plongée dans la confusion, Kara, en uniforme rouge, flanquait des coups de coude pour frayer un passage à sa protégée. Connaissant la mort de Sith, Kala n'avait même pas tenté de la dissuader de jouer ainsi les gros bras. Par bonheur, dès que les hommes voyaient l'épouse du seigneur Ral en tenue de combat, une cuirasse, des jambières et une épée d'Aran aux côtés, ils s'écartaient sans avoir besoin des encouragements musclés de Kara. Comme toujours, la garde de l'épée de vérité dépassait de l'épaule gauche de Kalan. Une raison de plus pour que les hommes lui cèdent le passage. Non loin de là, des chevaux protestaient parce qu'on tentait de les atteler à un chariot. Autour, des hommes criaient de rage, dépassés par cette révolte inattendue. Des messagers couraient partout dans le camp, sautant sur le côté pour éviter des chariots lancés à grande vitesse. Une longue colonne de lanciers s'était déjà mise en marche, suivie par le détachement d'archers qui assurait sa sécurité. Dès qu'elle entra dans la cabane, Kalan sentit que l'atmosphère était tendue. Zed était là, avec Adi, le général Meffert, accompagné de plusieurs de ses officiers, Verna et Warren. Sur la table qu'on avait tirée au milieu de la pièce, une demi-douzaine de cartes étaient déroulées. « Depuis quand ?» demanda Kalan, coupant court aux formules de politesse.
« C'est très récent, » répondit Meffert. « Nos ennemis lèvent le camp. Ils ne préparent pas une attaque. Simplement, ils semblent avoir décidé de s'en aller.
Quelqu'un sait où ils vont ?»«
Selon les éclaireurs, vers le nord, mais je n'ai rien de plus précis. »
« Ils ne s'intéressent plus à nous ?»«
Il se peut que ce soit une ruse, et qu'une force importante revienne nous attaquer. Mais pour le moment, on dirait bien que l'ordre n'en a plus rien à faire de nous. »«
Jagang n'a pas besoin de s'occuper de nous, » dit Warren.
Kalan le trouva un peu pâle, mais ça ne l'étonna pas. Ils devaient tous être blêmes.
« Il sait que nous allons être obligés de le suivre, alors pourquoi viendrait-il nous débusquer ici ?»
L'inquisitrice ne trouva rien à redire à ce raisonnement.
« S'il part pour le nord, il se doute bien que nous n'allons pas rester dans la vallée à lui faire au revoir de la main. »
L'empereur changeait une nouvelle fois de stratégie. Kalan n'avait jamais eu affaire à un chef militaire tel que lui. En général, les guerriers s'en tenaient à leur méthode favorite. Quand ils remportaient une bataille grâce à une tactique donnée, ils pouvaient en perdre 10 autres d'affilée sans changer de procédure parce qu'elle avait marché une fois. Certains n'étaient pas très intelligents. Les plus faciles à affronter, il fallait l'avouer.
Se fiant aveuglément à la supériorité numérique, ils envoyaient leurs hommes à l'abattoir, sûrs de vaincre au bout du compte. D'autres, plus imaginatifs, inventaient des tactiques au gré des besoins. Souvent trop arrogants, il leur arrivait de finir embrochés par la pique d'un soldat adverse moins brillant mais plus pragmatique. D'autres encore, tenant la guerre pour un jeu, se fiaient aveuglément aux traités de tactique et s'indignaient quand leurs ennemis s'écartaient de la théorie. Jagang était différent. Capable de deviner les intentions de ses adversaires, il ne sombrait jamais dans la routine. Après que Kalan lui eut infligé de lourdes pertes en lançant des raids incessants au cœur même de son camp, il avait repris la technique à son compte, et ses contre-raids avaient eu des effets dévastateurs. Contrairement à beaucoup d'imbéciles qu'on pouvait pousser à commettre d'énormes erreurs, Jagang ne tombait jamais 2 fois dans le même piège. Ravalant sa fierté, il s'adaptait à toutes les situations et n'entrait jamais longtemps dans le jeu de ses ennemis. Les Darans avaient pourtant réussi à porter des coups terribles à l'armée de l'ordre. Leurs propres pertes, si lourdes fussent-elles, restaient minimes par rapport à celles qu'ils avaient infligées aux bouchers de Jagang. L'hiver les avait bien aidés, tuant un nombre incroyable de soudards. Habitués au climat du sud dans l'ancien monde, les officiers n'avaient pas su faire face aux rigueurs de la mauvaise saison dans le nouveau. Un 500 000 d'hommes étaient morts de froid et des centaines de milliers d'autres avaient succombé à diverses maladies. Le seul climat avait coûté quelque 750 000 hommes à l'empereur, une inconcevable hécatombe. Kalan commandait désormais une force de quelque 300 000 soldats. Dans des circonstances habituelles, cette armée aurait pu écraser n'importe quel ennemi. Hélas, les renforts impériaux n'avaient cessé d'affluer, faisant bien plus que compenser les pertes. À ce jour, la horde de Jagang comptait près de 2,5 millions de guerriers, et elle grossissait encore. Jagang avait accepté la relative trêve hivernale parce que se battre par un froid pareil était quasiment impossible. Au printemps, il ne s'était pas précipité, assez malin pour comprendre que guerroyer dans la boue au moment de la fonte des neiges n'était pas très facile non plus. À cette période de l'année, les chariots s'embourbraient trop facilement, les cours d'eau en crue étaient impossibles à franchir et la cavalerie ne servait pratiquement à rien sur un terrain glissant.
En cas de charge, on réussissait surtout à perdre des montures de valeur, sans même parler de leurs cavaliers. Les fantassins pouvaient toujours attaquer, mais sans soutien monté, ils couraient au massacre. En revanche, l'empereur avait tiré parti du printemps pour faire connaître partout son nouveau surnom. Jagang le Juste. Quand elle avait appris que des émissaires de la paix avaient sillonné les contrées du milieu, Kalan était entré dans une colère noire. Lorsqu'on les acceptait dans une ville, ces héros du mensonge promettaient la paix et la prospérité universelle. L'été étant enfin arrivé, Jagang repartait en campagne. Et il prévoyait d'envoyer ses troupes dans les cités que ses émissaires avaient visitées. Kalan sursauta quand la porte de la cabane venait de s'ouvrir à la volée. Ce n'était pas à cause du vent, mais de l'irruption de Rika. Peu assurée sur ses jambes, la mort de Sid semblait n'avoir pas dormi depuis des jours. Kara approcha de sa collègue au cas où elle aurait besoin d'aide, mais elle n'esquissa pas un geste attendant une éventuelle demande. Les femmes en rouge détestaient afficher leur faiblesse en public. Rika approcha de la table et jeta deux agiel sur les cartes d'état-major.
« Qu'est-il arrivé ?»
demanda Kalan, accablé.
« Je n'en sais rien, mère inquisitrice. J'ai découvert leurs têtes, chacune piquée au bout d'une lance. Les agiel étaient attachées aux hampes. »
Kalan tenta de contenir sa colère.
« As-tu compris à présent, Rika ?»
« Galina et Solveig ont eu une fin digne de mort de Sith.
Non, elles sont mortes pour rien. Après avoir perdu les quatre premières morts de Sith, nous savions que ça ne fonctionnait pas. Quand celui qui marche dans les rêves contrôle leur esprit, les magiciennes et les sorciers ne sont pas sensibles au pouvoir de tes collègues.
Il y a peut-être une autre explication. Si les morts de Sith peuvent neutraliser les forces magiques adverses, il faut continuer. D'un seul geste, les magiciennes et les sorciers sont capables de tuer 1000 de nos soldats.
Je comprends ton point de vue, Rika, mais il n'est pas réaliste. 6 de tes amis sont mortes pour le prouver, il faut arrêter le massacre.
Je pense quand même que,
Rika, nous sommes là pour prendre des décisions capitales. Désolé, mais je n'ai pas le temps de discutailler.
Kalan s'appuya à la table et dévisagea la mort de Sith.
Je suis la mère inquisitrice et l'épouse du seigneur Ral. Si tu ne m'obéis pas, tu devras quitter ce camp, c'est compris ?
Rika regarda Kara qui ne broncha pas.
Je veux rester avec nos forces et faire mon devoir.
Parfait. À présent, va manger quelque chose tant qu'il est encore possible de se faire servir. Nous avons besoin que tu sois en forme.
Rika hocha vaguement la tête, ce qui se rapprochait le plus d'un salut pour une mort de Sith, et sortit à grandes enjambées. Kalan chassa le nuage de moustiques qui tournait autour de sa tête et se concentra sur les cartes.
« Bien, »
dit-elle en écartant les deux agiel.
« Quelqu'un a une suggestion ?»«
Restons sur leur flanc, »
proposa Zed.
« Une attaque massive étant impossible, continuons à harceler les forces de Jagang. »«
Je suis aussi pour cette solution, »
dit Verna.
« L'ennui, »
intervint Mayfert,
« c'est la taille de l'armée ennemie. »
Tout le problème est là,
approuva Kalan.
Jagang a assez d'hommes pour les diviser en plusieurs forces trop importantes pour les nôtres. Je suis sûr qu'il le fera, et je veux savoir comment nous réagirons. À sa place, j'aurai recours à cette tactique parce que c'est la plus gênante pour nous.
Quelqu'un frappa à la porte, et Warren, qui s'était campé devant la fenêtre, alla ouvrir. Le capitaine Zimmer entra, salua en se tapant du poing sur le cœur, et alla se placer face à Kalan. Décidé à broyer du noir, Warren retourna devant la fenêtre.
« Jagang divise ses forces, »
annonça Zimmer. Le pire advenait, comme toujours.
« Ses objectifs ?»
demanda Kalan.
« Apparemment, il envoie environ un tiers de ses hommes vers la vallée de Kalizidrine, d'où ils pourront attaquer Galéa. Les autres foncent vers le nord-est, sans doute pour traverser la vallée de Cairn. »
Et fondre sur Aydindril, car la cible finale de cette expédition ne faisait pas de doute.
« Avoir raison ne me ravit pas, » dit Zed. « Mais c'est ce que Kalan et moi avions prévu. »«
C'est une manœuvre évidente, »
dit Mayfert, penché sur la carte principale.
« Mais avec une force de cette taille, il faut s'attendre à tout. »
Consciente que personne n'aborderait le sujet le plus délicat, Kalan décida de prendre les choses en main.
« Galéa a décidé de faire cavalier seul. » « Donc, nous n'interviendrons pas. »
Le capitaine Zimmer désigna un point sur la carte.
« Il faudra placer nos troupes devant les leurs, pour les ralentir.
Les suivre et les harceler ne suffira pas, sauf si nous voulons passer notre temps à enterrer les cadavres dans les cités mises à sac.
« Je suis d'accord, »
annonça Mefurt.
« Nous devons ralentir l'ennemi.
Au bout du compte, nous céderons du terrain, c'est inévitable, mais c'est le seul moyen de gagner un peu de temps et d'accorder un répit aux contrées du milieu. »
Zed se tourna vers son jeune collègue.
« Qu'en penses-tu, Warren ?»
Le futur prophète sursauta en entendant son nom comme si son esprit avait été très loin de là. Kalan s'inquiétait, car elle trouvait que le mari de Verna n'allait pas bien. Le voyant approcher, le dos bien droit et l'air confiant, elle pensa s'être trompée. Au fond, ils étaient tous bizarres en ce moment.
« Oublions Galéa, » dit Warren, « car c'est une cause perdue. Aider ces gens est impossible et ils connaîtront le sort que leur a prédit la mère inquisitrice. Pas parce qu'elle leur souhaitait du mal, mais parce qu'elle avait compris bien avant tout le monde. Si nous envoyons des troupes, elles se feront massacrer.
« Et qu'as-tu à dire d'autre ?»
demanda Zed, étonné que Warren se soit contenté d'enfoncer des portes ouvertes. Le futur prophète se plaça entre Verna et Mefurt, se pencha et posa un index sur la carte, très loin au nord, pratiquement devant Aedindril.
« C'est là qu'il faudra poster nos forces. »«
Si loin ?»
demanda le général.
« Pourquoi ?»«
Parce que c'est le seul moyen d'obliger Jagang à s'arrêter jusqu'à la fin de l'hiver prochain. » En l'affrontant là, il devra attendre le beau temps pour nous submerger et foncer sur Aedindril.
« Nous submerger ?»
répéta le général, indigné.
« Bien entendu. D'ici là, l'empereur disposera de 3 ou 4 millions d'hommes. Vous pensez pouvoir les arrêter, général ?»«
Dans ce cas, pourquoi nous envoyer à la boucherie ?»«
Pour offrir un an de sursis à Aedindril. »
Warren se tourna vers Kalan.
« Dans 12 mois, presque jour pour jour. » Aedindril tombera. Essayez de préparer ses habitants au pire, mais ne vous faites pas d'illusions. Sa chute est inévitable.
Absurdement, Kalan eut envie de gifler Warren. L'entendre dire à voix haute ce qu'elle pensait en secret était intolérable.
L'ordre ne pouvait pas conquérir le cœur même des contrées du milieu et du Nouveau Monde. Imagine Jagang et ses sbires dans le palais des inquisitrices donner envie de vomir à Kalan.
Zed, continua Warren.
Il faudra protéger la forteresse du sorcier. Vous le savez aussi bien que moi. Si les forces magiques de Jagang l'investissent, tout sera perdu, car elles disposeront d'un pouvoir sans limite. Défendre la forteresse est vital. Nous devrons nous souvenir qu'il s'agit d'une priorité absolue.
S'il le faut, je m'en chargerai seul, dit le vieux sorcier.
Il se peut que ce soit nécessaire, souffla Warren. Quand nous serons en position et que la fin approchera, vous devrez nous laisser et aller défendre la forteresse.
« Warren !»
explosa Kalan.
« Vous parlez comme si tout était joué. Accepter la défaite ainsi est inacceptable. »
Warren eut un sourire timide.
« Mère inquisitrice, si je vous donne cette impression, vous m'envoyez désolé. C'est une analyse lucide, pas un manifeste de défaitisme. » Nous n'arrêterons pas l'armée de Jagang. Il faut regarder la vérité en face. D'autant plus que certains pays, à l'instar d'Anderit et de Galéa, auront peur de l'ordre et préféreront une alliance à un massacre. J'ai vécu dans l'ancien monde à l'époque où il tombait peu à peu sous la domination de Jagang. Cet homme est méthodique et il n'ignore rien des vertus de la patience. Conquérir l'ancien monde semblait impossible et pourtant il a réussi. Il peut attendre des années s'il le faut et il ne se détourne jamais de ses objectifs. En l'énervant, il est possible de le pousser à l'erreur, mais il se ressaisit très vite. Savez-vous pourquoi il reprend très vite son calme? Parce que la cause qu'il défend est ce qui compte le plus à ses yeux. Pour comprendre l'empereur, il ne faut jamais perdre de vue un point essentiel. Il est persuadé d'être dans le vrai et d'agir pour le bien de l'humanité. Il aime être un conquérant couvert de gloire. C'est indéniable, mais sa véritable gratification est de penser qu'il aura ramené sous la lumière du Créateur des gens qu'il tient pour des païens. Pour progresser, il en a l'absolue conviction. L'humanité doit se soumettre à l'autorité hautement morale de l'ordre.
« Un tissu d'absurdité !»
s'exclama Kalan.
« Vous avez le droit de le penser. Mais Jagang croit sincèrement œuvrer pour le bien de l'humanité. C'est son credo et celui de tous ses principaux collaborateurs. »
« L'empereur pense que le meurtre, le viol et l'esclavagisme sont les mamelles de la justice ?»
demanda Mefurt,
Dans ce cas, il est fou allié.
N'oubliez pas qu'il a grandi sous la tutelle des prêtres de la confrérie de l'ordre, dit Warren. C'est capital. Ayant assimilé leur enseignement, Jagang est persuadé que les horreurs que vous venez de citer sont justifiées. Pour lui, seul l'autre monde importe, parce que c'est là qu'on se retrouve dans la lumière du Créateur. Pour ces gens, se sacrifier au nom des autres dans le royaume des vivants permet d'obtenir la récompense suprême après la mort. Tous ceux qui n'acceptent pas cette vision de la vie, nous en l'occurrence, doivent être convertis ou tués.
Donc, récapitula Mefert, le devoir sacré de Jagang est de nous écraser. Le butin n'est pas sa motivation principale, car il cherche à son étrange façon à sauver l'humanité.
C'est ça, oui. Admettons, soupira Kalan. Warren, selon vous, que va faire ce saint homme en quête de justice? Pour conquérir le nouveau monde, il doit s'emparer de deux lieux essentiels. Sinon, sa victoire sera incomplète. Ses cibles sont Aydindril, le siège du pouvoir dans les contrées du milieu, et le palais du peuple en Daa. Si ces deux bastions tombent, tout le reste s'écroulera. Apparemment, il a choisi son premier objectif. L'ordre fonce vers Aydindril pour diviser les contrées. Sinon, qu'irait-il faire dans le nord? Ensuite, il se concentrera sur Daa, qui sera isolée. Briser les alliances est un des meilleurs moyens de vaincre, et pour démoraliser un adversaire, le frapper au cœur est idéal. Je ne dis pas que tout est joué, mais voilà en gros le plan de Jagang. Richard l'avait deviné avant nous, d'où sa décision. Sachant que nous n'avons aucune chance d'arrêter les envahisseurs, il nous faut regarder la réalité en face.
Kalan baissa les yeux sur la carte principale.
Aux heures les plus sombres, dit-elle, il est vital de continuer à croire en soi. L'Empire d'Aran ne se rendra pas sans combattre. Il faut lutter avec tous les moyens dont nous disposons et guetter une occasion de renverser la situation.
La mère inquisitrice a raison, dit Zed. Lors de la dernière grande guerre que j'ai vécue dans ma jeunesse, mon camp semblait condamné. Nous avons résisté, et finalement les envahisseurs ont dû retourner d'où ils venaient.
Aucun officier d'Aran ne fit de commentaire. À l'époque, l'agresseur était Dara.
« Mais tout a changé aujourd'hui, »
s'empressa de préciser le vieux sorcier.
« Cette guerre avait été déclenchée par un dirigeant maléfique. »
Il regarda Mefert, Zimmer et les autres Daran.
« Dans un conflit, chaque camp compte des hommes d'honneur et des salauds. Grâce au nouveau seigneur Ral, tous les combattants de bonne volonté peuvent aujourd'hui défendre une juste cause. Nous finirons par vaincre, j'en suis sûr. Je sais que c'est difficile à croire en ce moment. » Mais il doit y avoir aussi dans l'ancien monde des gens de valeur qui souffrent sous le joug de l'ordre et ne partagent pas ses objectifs de guerre. Quoi qu'il en soit, nous devons endiguer l'invasion.
Warren, dit Kalan en désignant la carte, comment Jagang mènera-t-il cette campagne selon vous?
Le futur prophète tapota la carte un peu au sud d'Aydindril.
Connaissant Jagang et sa stratégie habituelle, il s'en tiendra à son plan de base. Il a un objectif et il continuera à avancer vers lui. Jusqu'à présent, nous ne lui avons rien opposé d'inédit. Pour un chef de guerre expérimenté comme lui, ce conflit doit paraître très banal. Ne croyez pas que je veuille minimiser nos succès. Nous lui avons réservé quelques mauvaises surprises et c'était une bonne chose, mais globalement, tout se déroule comme il le prévoyait. En positionnant nos forces là où je l'ai dit, vous protégerez Aydindril jusqu'à l'été prochain. Jagang a compris que les hivers ici n'étaient pas propices aux batailles, mais quand le beau temps sera revenu, il se mettra en marche et rien ne l'arrêtera. Alors quoi que vous fassiez, Aydindril tombera. Et il faudra coûte que coûte tenir la forteresse du sorcier, c'est tout ce qui restera à faire.
Un lourd silence tomba sur la pièce. Dans la cheminée, le feu agonisait et c'était le dernier qui y aurait brûlé.
Leur bagage déjà fait, Warren et Verna étaient prêts à partir avec l'armée. Ils perdraient leur foyer et c'était peut-être pour ça que le futur prophète se montrait si mélancolique. Kalan regarda les rideaux qu'elle avait fabriqués pour eux des mois plus tôt. Leur mariage semblait remonter à une éternité. Le sien paraissait être un rêve très lointain. Chaque matin au réveil, elle avait le sentiment que Richard n'était plus qu'un fantôme. La guerre devenait la seule réalité pour tous ceux qui y participaient, leur dévorant l'âme et le cœur.
À certains moments, Callan aurait juré que Richard n'avait jamais existé. Un songe éveillé, voilà ce qu'avait été sa vie. Et ce long été de bonheur dans les montagnes ne pouvait pas avoir vraiment eu lieu. Ces instants de doute terrifiaient davantage l'inquisitrice que la horde de soudards de Jagang.
« Warren, que se passera-t-il après la chute d'Aydindril ?»«
Je n'en sais rien. Jagang se contentera peut-être de digérer sa proie, le temps d'avoir assis son emprise sur les contrées du milieu. Mais tôt ou tard, parce qu'il est certain que son devoir l'y oblige, il se mettra en route pour Dara. »
Callan se tourna vers le capitaine Zimmer.
« Capitaine, préparez vos hommes à l'action. Pendant que nous finissons de démonter le camp, ils montreront à Jagang que nous n'avons aucune intention de le laisser en paix. »
L'officier sourit puis se tapa du poing sur le cœur.
« Mes amis, dit l'inquisitrice, l'ordre devra verser du sang pour chaque pouce de terrain qu'il annexera. Même si je ne peux rien faire de plus, je m'acharnerai à ce qu'il en soit ainsi tant qu'il me restera un peu de force. »